Je m'interrogeais sur le fait, est-ce que l'hypnose fonctionne sur les personnes qui comprennent quoi, dont la langue française n'est pas leur langue maternelle, ou qui comprennent le français mais pas super bien.
C'est compliqué quand même, hein. Parce que, alors oui, on peut avoir des modes d'induction basés sur des démarches corporelles, ça existe. Mais là, à partir du moment où on travaille avec la voix, les paroles, les mots, c'est quand même important que la personne maîtrise le français. Ou alors, il faut que toi, tu adaptes ton niveau de langue à ce qu'elle connaît.
D'accord.
Et ça risque peut-être de ne pas être toujours simple.
D'accord.
Donc,
Et
c'est vrai que.
du coup, ce qui marcherait avec ces personnes-là, c'est une hypnose sur dans la langue, quoi, leur langue maternelle, c'est ça? Ça
Bah oui,
marcherait ou... D'accord.
oui. Si, si, oui. Dans la langue qui est la leur, quoi, effectivement.
D'accord, merci.
D'autres questions, n'hésitez pas. Après, je peux vous donner quelques points que j'ai à vous transmettre là. Et si vous voulez, bah, vous me poserez des questions au fur et à mesure si vous en avez par rapport à ce que je vous dis, d'accord? Je voulais vous parler de votre induction en situation réelle. À la fin de cette section, on va vous demander d'écrire une induction, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et de la pratiquer, enfin, d'écrire une induction pour quelqu'un que vous choisissez. Et ensuite, on vous demande de la mettre en pratique en filmant cette séance et on vous demande de nous envoyer la vidéo. Pour moi, c'est mieux quand c'est une vidéo parce que je peux voir. Et du coup, je peux voir notamment l'installation. Comment est-ce que vous installez la personne? Comment vous lui proposez de s'installer? Et comment vous-même vous vous installez? C'est hyper important. Ce que je vous conseille pour l'installation de la personne, c'est quand même par rapport à ce qu'on se propose de faire là, parce qu'on est axé quand même sur une hypnose qui est en lien avec le bien-être, d'installer la personne dans un certain confort. Ce qui veut dire pour moi qu'elle puisse poser les épaules et la tête contre un support. Parce que ça va aider à ce qu'elle lâche. Donc un fauteuil qui a un dossier haut, un canapé, voilà, mais qu'elle puisse reposer, vraiment relâcher le haut du corps. Ça, pour moi, c'est très important. Vous lui proposez également, c'est bien une proposition, de décroiser les bras, les mains, les jambes, les pieds. Parce qu'il y a des personnes qui s'installent toutes croisées. Et ce qui veut dire fermées. Donc, si la personne est en mesure de d'ouvrir, on le lui suggère. Donc, tout simplement en disant, et si c'est possible pour vous, si vous êtes d'accord avec ça, mais je vous invite maintenant à desserrer les mains. Si c'est OK pour vous, hein, voilà. Il y a des personnes qui vont peut-être être un peu stressées, qui vont avoir besoin de garder les mains comme ça, ben, elles les gardent, c'est pas grave. Mais au moins, dès le début, de lui proposer. Et de la même manière, je vous invite vous aussi à être dans une posture d'ouverture. Donc, décroisez vos jambes, vos bras, si vous le pouvez, vraiment. Posez les pieds au sol, bien ancrés dans le sol, pour vraiment être dans une posture de centrage avant de démarrer votre induction. Voilà pour l'installation. Est-ce que vous avez des questions à ce propos?
Non, c'est clair.
Non, c'est clair. Ok. Vous pouvez, certains me demandent musique, pas musique, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire choisir le client. Est-ce que vous souhaitez un fond musical ou pas? Voilà, ça c'est vous qui voyez. On peut très bien faire une séance d'hypnose dans le silence total. Il n'y a pas, on pense toujours à associer à la musique, ce n'est pas une obligation du tout. Donc ça, c'est à vous de voir aussi comment vous le sentez. Ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc, ce que je peux vous dire aussi, ça, pour moi, c'est le plus important. C'est quelque chose qui n'est pas dit dans la formation et que j'apporte, moi, en décalage de la formation, pour le fonctionnement de l'induction. L'induction, c'est la mise en transe, c'est ce qui nous permet de placer la personne dans un état de conscience modifié. Tout le monde est d'accord avec ça. Le fait que la personne soit en état d'hypnose, c'est la condition sine qua non, la condition principale à ce qu'on va faire après. Parce que quel que soit le protocole qu'on utilise après, si la personne n'est pas en état d'hypnose, on n'est pas en train de faire d'hypnose. On fait autre chose, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas la question, mais c'est pas de l'hypnose. On est d'accord? On ne peut parler de séance d'hypnose qu'à la condition que la personne soit bien en état d'hypnose. L'état d'hypnose est un état qui, en lui-même, est thérapeutique. Parce que si vous vous rappelez de vos cours de la section 1, vous avez pu voir que l'état d'hypnose va entraîner un ralentissement des ondes cérébrales et permet aussi, donc le cerveau va passer sur d'autres fréquences avec des accès à certaines ressources, hein, un autre fonctionnement. Et aussi, on a une meilleure synchronisation des deux hémisphères cérébraux. Il y a un schéma, hein, dans les cours, on a vu ça. Et donc, cette synchronisation des hémisphères va être très intéressante pour venir récupérer des ressources. Cet état est un état qui ressource. Ressource vraiment, vous savez que les navigateurs, par exemple, pratiquent l'auto-hypnose pour se régénérer, récupérer d'énergie. Donc, c'est une pratique qui est utilisée par des personnes qui en ont besoin, qui ne peuvent pas dormir, etc. Voilà, comme je vous citais les navigateurs. C'est une technique qui a prouvé son utilité dans des cas comme ceux-là, qui est vraiment très bénéfique pour la récupération. Ça va apporter une bulle de ressourcement à la personne qui va amener à un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, là, dans des situations où on peut être en état de stress, va être très, très, très bénéfique. On peut s'en ressentir, du coup, derrière, ressourcer et on peut récupérer. Donc cet état-là en lui-même est très intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien poursuivre plus tard avec des séances basées uniquement sur des inductions que vous pouvez allonger, dans lesquelles vous pouvez peut-être proposer une visualisation particulière. Une petite, par exemple, je sais pas, visualisation, amener la personne dans un lieu ressource dans lequel elle peut revenir, lui proposer des nettoyages par le biais de la respiration, par exemple, donc qu'elle dénoue ses tensions, qu'elle évacue les tensions, ce que vous faites déjà, hein, dans certaines de vos inductions, mais se centrer là-dessus et lui donner plus de place. Proposer une détente corporelle, détente dans tout le corps. Donc, par exemple, induction qui pourrait durer 20-25 minutes, bien plus longue, avec un protocole comme ça que vous choisissez, ça peut former une séance complète. C'est ce que j'appelle de l'hypno-relaxation. Et c'est pas du tout négligeable comme effet. Voilà, ne pas hésiter à proposer aussi ce genre de séance à des personnes qui, on aurait besoin. On n'a pas parlé déjà de ça, Coralie, vendredi? Si.
Oui, si, si, on en a parlé.
Voilà,
Ouais. Et
parce que
justement, je
je
suis en train d'en faire une à titre trop d'entraînement pour ma
D'accord.
sœur qui veut pas forcément. Elle voudrait pas aller plus loin, les métaphores, etc. Je sens que ça va pas être spécialement son truc. Pour l'instant, elle me dit effectivement, c'est vrai que depuis quelque temps, je cumule un petit peu, je sens, j'ai le plexus noué, etc. Donc, bah, en fait, finalement, je lui ai fait une induction super longue. Avec justement cette relaxation par la respiration, avec une histoire de couleur qui vient dénouer, etc., etc., pour lui faire plutôt ça. Et je trouve que l'hypno-relaxation, ouais, ça peut convenir carrément parfaitement mieux à des personnes au départ un peu stressées, quoi.
Complètement. Donc là, t'es en train de préparer la séance, donc tu ne l'as pas encore pratiquée.
Non.
OK. Bah, c'est super, oui, parce qu'effectivement, ça, c'est un très bon exemple que nous donne Coralie. Vous voyez, il y a des personnes rentrées dans des choses un peu approfondies, aiguës, etc. Elles n'ont pas envie. Donc, quelqu'un qui vous dirait, je me sens vraiment stressée en ce moment, mais qui n'a pas envie d'aller creuser davantage, mais par contre, qui aimerait bien avoir un petit temps pour se détendre, se relaxer, récupérer, ben, on peut lui proposer une séance comme ça, c'est très intéressant. Et vous pouvez baser des séances sur des points généraux comme la confiance en soi, le lâcher prise, vous voyez, des séances comme ça très générales, mais avec des sujets qui sont quand même souvent moteurs dans les sous-sujets qui font souffrir les personnes qui viennent vous voir. Ça peut être intéressant aussi, c'est ce qu'on a dû dire vendredi, Coralie était là vendredi, on en a parlé aussi dans un autre Zoom. Quand vous avez des personnes qui viennent parce qu'elles fument, il y a une addiction, quelle que soit l'addiction, elles veulent s'en séparer. Peut-être qu'en plus des séances que vous allez proposer sur le schéma de celles qu'on est en train d'apprendre, eh bien peut-être que vous pouvez intercaler par des séances d'hypno-relaxation qui vont leur permettre un accompagnement plus régulier. Parce qu'une séance d'hypnose comme celle qu'on fait, tout le protocole, induction, les métaphores, action, suggestion, visualisation, etc., ça, on va dire qu'une séance toutes les 3 semaines, c'est bien parce qu'il faut laisser le temps à la séance d'agir. Entre-temps, vous pouvez intercaler avec des séances comme celle-ci d'hypno-relaxation qui vont venir soutenir votre plus grande séance et qui vont venir apporter un accompagnement plus régulier. Pour quelqu'un qui pourrait sentir que il ne voit pas beaucoup et qu'il a besoin de plus en ce moment, sur cette période-là, parce que c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez aussi, du coup, faire une sorte de pack où vous dites, bah voilà, je vous propose que pendant 3 mois, on se voit tant de fois et vous pouvez proposer bah, des séances d'hypno-relaxation, des grandes séances. Vous pouvez mixer les deux dans votre accompagnement. Vous pouvez aussi, en hypno-relaxation, proposer des ateliers de découverte de l'hypnose où vous présentez l'hypnose et puis après, vous faites un atelier pour un groupe basé sur une séance comme celle dont a parlé Coralie. Avec une visualisation, quelque chose, voyez, d'un peu général ou pour faire une première entrée en matière et ça peut vous permettre de vous faire connaître aussi, de proposer ça. Il y a plein d'endroits maintenant où, de lieux où, d'associations qui peuvent être intéressées par votre intervention, une intervention de ce type-là. Donc voilà, à explorer, à tenter. Souvent, les inductions que vous proposez dans les devoirs, elles sont courtes, très courtes. Moi, j'ai fait des inductions toujours longues quand même, hein, je me rends compte. Après, je bombarde pas d'outils non plus, parce que j'aime bien que ça se fasse vraiment au rythme de la personne. Si le conscient a besoin de plus de temps pour lâcher, c'est pas grave, on le prend, vous voyez. C'est vrai que là, les inductions avec tous ces outils, elles sont super efficaces, clairement. Mais prenez le temps. Et quand vous allez pratiquer en situation réelle, prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. C'est la remarque que je fais tout le temps. Laissez des pauses entre vos phrases, laissez des pauses entre vos paragraphes. Vraiment, parce que la personne, elle vit quelque chose. Donc, lui laisser ces temps de silence, ce ne sont pas des temps de blanc ou de rien. Ce sont des temps où il se passe quelque chose pour elle. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser ce temps pour que la personne s'imprègne de son expérience, la vive. Et on peut se permettre de faire des silences. C'est tout à fait OK, au contraire. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des outils qui vous posent problème? Qui sont plus compliqués que d'autres? Est-ce que vous avez besoin d'en savoir plus?
Le jeu de mots.
Ouais, bah.
On réutilise toujours la même chose.
Bah,
Alors, il y a
si.
des fois, tu vas lire un livre ou un truc comme ça, et puis d'un seul coup, tu vas en voir un, tu vas faire Oh! Tu le notes vite. Mais alors, il faut réussir à la remployer derrière. C'est un peu.
C'est ouais, c'est le plus difficile. C'est plus difficile parce que des jeux de mots, vous en faites plein. J'en ai plein des jeux de mots. Vraiment. Les stagiaires, pardon, arrivent à vraiment faire plein de jeux de mots. Mais le souci du jeu de mots du 13, l'outil 13, c'est que, normalement, il a du sens.
Oui, dans la phrase dans laquelle
Dans
il est
la,
employé,
voilà.
est censé vouloir dire un truc.
C'est ça. C'est comme, la magie dans cette transformation donne l'âme agit dans cette
Agit
transformation.
dans
Il y
cette
a un
transformation.
message, il y a une phrase qui est derrière. Et c'est là que souvent, c'est compliqué. C'est-à-dire faire le jeu de mots pour le jeu de mots, je les ai, mais il n'y a pas de sens derrière.
C'est ça. Pareil pour le yes set aussi, c'est assez compliqué. Tu as tendance à vouloir te focus sur les premières questions que tu vas, enfin les premières questions que tu vas poser, ça va plutôt être qu'il est entré dans la détente, enfin qu'il est, alors qu'en fait il faut pas le faire parce que t'en sais rien quoi. Enfin, c'est lier
Oui,
ce truisme à la question.
c'est
Là,
exactement
c'est
ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a 99% de chances que quand vous demandez à la personne et tu te sens plus détendu, n'est-ce pas, il y a 98% de chances pour qu'elle pense oui. Mais on ne sait pas si à ce moment-là il y a eu quelque chose qui est remonté, qui l'a enquiquiné, voilà, et ben ça peut être non. Donc on doit vraiment être absolument certain de la réponse. Et c'est exactement ce que dit Coralie, le yes set. C'est en fait un truisme sous forme de question. Mais du coup, ça réduit aussi le champ des possibles, parce que parfois, il y a des truismes qui sont bizarres sous la forme de question. Je ne suis pas du tout choquée si systématiquement, dans toutes vos inductions, vous reprenez le schéma, vous êtes venu ici pour vous sentir mieux, n'est-ce pas? Et vous pensez que l'hypnose peut vous y aider, n'est-ce pas? Ouais, vous voyez, des choses vraiment basiques. La personne, elle est venue pour ça. Elle pense effectivement que ça peut l'aider. Point. Enfin, voyez, rester sur des questions de ce type-là, c'est pas un problème.
excusez-moi.
Oui.
Moi, je pense que le plus simple, c'est de partir de l'anamnèse. C'est-à-dire, les informations que l'on retire de la personne nous donnent au moins, à minima, au moins trois yes sets faciles.
Sur ce que tu peux nous donner un exemple?
Bah, je ne sais pas si la personne vient pour un problème de poids et qu'elle est très stressée. Le fait qu'elle ait un problème de poids, en fin de compte, déjà, elle vient pour être aidée. Donc, si dans le YET16, si dans le YET16, on met quelque chose un peu sur le fait d'être calme, forcément, la réponse sera oui de son côté. Enfin, je trouve que c'est plus simple de construire ça parce que si on prend un élément trop générique, on sait jamais exactement. C'est un peu comme quand on met une induction et qu'on présuppose que la personne est détendue. On n'a jamais la certitude qu'elle est détendue. C'est pour ça que moi je préfère, en fin de compte, dans ces éléments-là, utiliser plutôt des éléments qui permettent à la personne d'arriver vraiment à sa détente avec des moments de silence. Comme ça, le corps et l'esprit se reposent et automatiquement cela induit, mais ne pas affirmer qu'elle est totalement détendue, parce que ça. Si la personne vient nous voir, c'est qu'elle, déjà, il y a toujours du stress sous-jacent quelque part. Il y a une pathologie, il y
Oui.
a quelque chose. Donc, c'est au fur et à mesure que la séance avance qu'elle va se détendre de plus en plus.
Donc oui, vous pouvez utiliser des éléments donnés dans l'anamnèse, effectivement. J'ai ça des fois des stagiaires qui connaissent bien les personnes avec qui elles travaillent, et ben, elles peuvent demander, et tu aimes les balades dans la nature, n'est-ce pas? Et tu souhaites y aller plus souvent, n'est-ce pas? Et vous voyez, des questions comme ça, parce
Ah
qu'elles les connaissent un peu.
oui, par exemple, pour reprendre ce cas-là, une personne qui aime les fleurs. Vous aimez les fleurs, n'est-ce pas? Bah, c'est sûr qu'elle va répondre oui.
Oui, tout à fait. Après,
Elle
elle a
aime les
dit.
voyages. Vous aimez les voyages? Oui. Parce qu'en général, quand on fait l'anamnèse, la personne donne quand même un certain nombre d'informations. Il y aura du positif et il y aura aussi du négatif. Donc, dans les deux, en fin de compte, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir créer le yes set. Je pense que c'est plus sûr de faire ça. Parce qu'en même temps, comme le but, c'est de créer un lien de confiance avec la personne, si on commence à agir de cette manière-là, comme d'avoir une interaction avec ce que la personne, elle a dit, on va forcément avoir une plus grande
Oui.
enfin, une conversation. Et donc, ça va nous faciliter la tâche pour la suite aussi.
Oui, c'est un. En même temps, on fait des clins d'œil, c'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment directement à la personne, c'est sûr. Après, selon ce que vous avez comme information, c'est pas toujours facile de le raccorder à ce que vous faites, à votre thème d'induction. Il faut que ça puisse s'imbriquer comme vous le voulez dans l'induction, c'est pas toujours simple. Mais effectivement, on va oublier les résultats qu'on attend et dire à la personne qu'elle est dans le résultat qu'on attend parce que non. Donc, on se base sur du truisme sous forme de questions, effectivement. Ou du truisme pour elle, hein, mais des choses que, voilà, dont elle, qui sont des faits qu'on ne peut pas réfuter. Il faut penser aussi que ce qui compte avec le yes set, c'est ce qui vient derrière. C'est la suggestion qui est derrière qui compte. Les questions en elles-mêmes, on s'en fiche.
Oui, parce qu'effectivement, même si elle aime voyager ou même si elle aime les fleurs, derrière, il faut que ça amène à quelque chose, en
Et
fait.
ouais. Donc,
Oui.
tu peux entrer en transe. Parce que ce qui compte, c'est la suggestion qui vient. Parce que
Oui.
ce qu'on fait avec nos questions, c'est la mettre dans une séquence d'acceptation. Pour qu'elle dise oui, et puis que quand on balance, mais donc tu peux entrer en transe, que comme le cerveau, il a déjà pris l'habitude de dire oui, bah, il continue à dire oui, et du coup, ça va lui permettre effectivement d'entrer en transe. Donc parfois, ça peut donner des choses un peu étranges. Donc, faut voir comment. Mais bon, peu importe. En même temps, si c'est étrange, ça fera de la confusion pour la personne et ça comptera comme un outil de langage de confusion. Mais voilà, on rappelle bien que dans le yes set, ce qui compte, c'est la suggestion qui vient derrière. Comme le truisme, il sert à deux choses. Il va servir à mettre la personne en confiance parce que elle voit que vous dites des choses qui, c'est pas du grand n'importe quoi, c'est vrai, c'est irréfutable ce que vous êtes en train d'affirmer. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre du truisme au début de vos inductions pour créer ce lien de confiance qui est déjà amorcé avant, hein, bien sûr. Mais pour que la personne, parce que pour que la personne lâche, se laisse aller, se laisse accompagner, il y a l'élément de base à ça, l'élément fondamental pour qu'elle puisse aller vers ça, c'est le sentiment de sécurité. Si la personne ne se sent pas en sécurité, ça va rendre le lâcher-prise très compliqué. Donc plus on va amener des choses qui vont lui permettre de se sentir en sécurité, et plus on va l'amener à pouvoir lâcher prise. Donc c'est pour ça qu'au début de l'induction, je vais utiliser des outils qui mettent en confiance. Donc le truisme, je dis des choses qui sont vraies. Le yes set sous forme de question, bah, je dirais aussi des choses qui sont vraies. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre du coup au début pour aller dans le sens de ce que je dis là?
L'alternative illusoire,
Comme ça, la personne,
l'autorisation.
voilà, l'autorisation, hein, vraiment, elle fait ce qu'elle veut, elle peut se permettre de faire ce qui est bon, juste pour elle, ou de ne pas enfin, ou de ne pas faire ceci ou cela. Donc, c'est vraiment elle qui reste maîtresse, actrice de la séance. L'alternative illusoire, oui, parce que il y a le sentiment qu'on lui laisse un choix, donc c'est elle qui peut choisir, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil qui peut mettre en confiance? On peut aussi, oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Non.
Peut-être le... Alors, je ne sais pas si tu le
Oui.
prends comme un outil, mais oui, peut-être utiliser le VACOG.
Oui, complètement. Oui, moi je le prends comme un outil. Oui, utiliser le VACOG, c'est utiliser ce qui se présente. Alors, le cas, on va inviter la personne à prendre contact avec ce qu'elle ressent, avec le kinesthésique, avec les sensations, sans forcément lui dire, et vous pouvez vous sentir détendu, et vous pouvez sentir comme la couverture est douce, et vous pouvez sentir comme il fait doux, ou je sais pas quoi. Non, c'est, je vous invite à prendre contact avec ce que vous ressentez. Donc, c'est pas nous qui allons lui dire ce qu'elle ressent. Vous voyez? Mais on l'invite à se pencher sur ce qu'elle a ressent. Donc ça, on ne peut pas le savoir pour elle. S'il y a des sons, il y a toujours des sons, hein, des bruits, on peut l'inviter à se centrer sur ce qu'elle entend. Peut-être une odeur, etc. Et tout ça va faire qu'effectivement, si on prend le VACOG au départ, pendant qu'elle s'installe, c'est-à-dire l'environnement dans lequel elle est, le VACOG de la pièce, de ce qu'il y a autour, pour les sons, aussi des sons qui viennent d'elle, c'est-à-dire le ventre qui gargouille, la respiration, etc. On s'appuie à nouveau sur du réel, sur du concret. de choses qui existent, sur des choses qui existent, ce qui peut être rassurant pour elle. Parce que nous, l'idée, c'est qu'on parle de l'existant. Métaphoriquement, ce qu'on va faire avec notre accompagnement par l'hypnose, c'est partir d'un point avec la personne et lui permettre un décalage de ce point. C'est ça qu'on lui propose. Et c'est ce qu'elle nous demande de faire. Elle veut se décaler, elle, parce qu'elle n'est pas bien là où elle est par rapport à ce qu'elle vit. Elle demande un décalage, un pas de côté. Donc l'induction est elle-même une petite métaphore de tout ça, dans le sens où on part de ce qui est, et à un moment donné, on va amener un petit décalage. Décalage qu'elle va choisir, et qu'elle, voilà, qu'elle va choisir. C'est-à-dire, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à elle. La personne choisit ce qui est bon et juste pour elle. Donc voilà, au début, oui, le VACOC, c'est un de ces outils sur lesquels on peut s'appuyer, de choses bien réelles, bien concrètes.
Les autorisations aussi, peut-être, non?
Oui, Coralie les a citées, je crois, tout à l'heure.
Ah, pardon, excuse-moi.
Non, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, oui, les autorisations, très important, ça. Vraiment. Parce que les personnes peuvent se poser beaucoup de questions sur ce qui est juste, pas juste, ce qu'elles peuvent faire, ne doivent pas faire, ce qu'elles devraient ressentir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire que quoi qu'il se passe, c'est OK. Quoi qu'elles vivent, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de choses justes à vivre en hypnose. Hein. Tout est OK. Ce qui compte, c'est ce qu'elle vit, elle. Donc, pas de jugement sur « j'y arrive pas », c'est pas, vous voyez. Donc, on peut aller au-devant de ça en disant ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire quoi que tu vives, c'est OK. Peut-être que vous pouvez ressentir ceci, mais peut-être pas, ou ça n'a aucune importance. Vous voyez, ce genre de phrase. Pour vraiment lâcher la pression. Lâcher la pression que la personne peut se mettre elle-même sur la séance. J'ajouterai comme outil également les dictons et les proverbes quand ils sont connus. Parce qu'en fait, quand on parle de dictons et de proverbes, il s'agit bien d'utiliser des proverbes qui sont connus par l'inconscient collectif. Parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous, hein, qui vient de l'inconscient collectif, et que la personne va hop, tout de suite recontacter. Des expressions courantes très souvent utilisées et des dictons du langage très courants vont donner une forme de familiarité parce que la personne elle va se retrouver là-dedans. Ce sont des choses connues de son inconscient.
Est-ce qu'on a dit, je pense que oui.
Stéphanie, excuse-moi, j'avais une question sur le YES7. Est-ce que les questions doivent forcément se suivre ou est-ce que ça peut être saupoudré dans le discours?
Alors, il ne faut pas que ça soit trop séparé, il faut qu'elles se suivent parce que c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que si tu ne les fais pas en suivi, tes oui vont être coupés. Donc, on ne va pas avoir cette progression des 3-4 oui. Il y en a qui disent qu'il faut 3 questions, d'autres 4. Donc, je vais choisir, mais nous, on dit 3 dans le cours. Mais il faut que ça soit suivi pour que chaque oui compte. S'il y a trop d'espace, ça va être perdu. De la même manière que votre suggestion qui vient après doit venir juste après. C'est très court, en fait. Donc, oui, il faut que ce soit vraiment une série de questions.
OK.
Voilà. Après, si tu fais un premier yet set, que tu fais une suggestion, que tu repars sur une petite phrase de je sais pas quoi et que tu remets une question, on reste quand même globalement dans cette séquence d'acceptation. Mais si on s'en tient à l'outil en lui-même, qu'on dit voilà, je veux faire passer cette suggestion, eh bien, il faudra que vos questions soient suivies, effectivement.
D'accord. Parce que je me demandais si c'est pour une même personne, si on peut plus voir.
Excusez-moi, oui, ça va couper, mais je vais relancer la réunion tout de suite derrière et vous vous reconnectez et on recommence.
On retourne sur quoi
au même endroit où tu étais. Moi, je vais relancer une nouvelle réunion. C'est les mêmes codes, la même adresse, tout pareil.
Non, mais parce que ça va être...
Voilà. Oui, ça va couper et on se reconnecte tout de suite, vous inquiétez pas.
Ça va.
Merci. Karine.
Oui, donc, parce que je me demandais si on fait plusieurs séances d'hypnose avec la même personne. Le fait de dire n'est-ce pas, je me dis ça va être perçu par le conscient à un moment donné.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas très grave.
D'accord.
Enfin, tant mieux si le conscient, il se dit, tiens, elle me ressort du n'est-ce pas, c'est bizarre son truc. Bon, c'est vrai que c'est pas très courant, n'est-ce pas? Moi, je l'utilise pas trop, pour être honnête. Hein. Si le conscient de la personne, il est occupé à ça, tant mieux. Parce que ça veut dire que l'inconscient, il a toute la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes les questions que ça va pouvoir générer, quand vous, ce que vous dites pas, comment vous le dites, machin, dites-vous que c'est de la confusion pour la personne. Donc, c'est pas très grave. Mais du coup, c'est vrai que vous pouvez peut-être faire varier, si vous en avez des versions différentes, des questions du Yes 7. Mais il faut savoir aussi que d'une séance sur l'autre, d'abord, on oublie. Et que peut-être vous pouvez poser...